Bonjour Christine Anne de Queens.
Eh bonjour.
Alors est-ce que j'ai déjà dit peut-être une bêtise? Parce que si j'ai bien écouté votre tout nouveau single, premier extrait de votre deuxième album qui paraîtra normalement avant la fin de l'année, eh bien faut peut-être vous appeler désormais Chris tout court.
Ouais, le tout court est pas mal aussi, le Chris tout court, c'est vrai que c'est assez ça, parce que c'est raccourci, c'est littéralement Christine and the Queens barré. Oui, je pense qu'il va falloir s'habituer à m'appeler Chris, parce que ce cycle qui s'ouvre avec ce premier titre et qui va être celui du deuxième album, il est aussi celui de l'évolution du personnage. Et que Chris, c'est un surnom avec encore moins de genre, avec encore moins de manière aussi, et c'est une façon très rapide d'appeler une petite canaille aussi. Donc oui, Chris, c'est pas mal.
Tout court comme vos cheveux, d'ailleurs.
Ouais, exact.
Christine a muté, elle a changé, elle a grandi, les trois à la fois, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est un peu les trois à la fois. Grandi certainement, parce que c'est quand même un album aussi de femmes désirantes plus que de jeunes adolescentes, ça c'est clair. Muté parce que, bah oui, physiquement, sûrement, j'ai dû avoir plus de muscles aussi et moins de cheveux. Oui, donc c'est une transformation, mais en même temps, c'est comme je dis, c'est continuer un geste en le rendant un petit peu plus agressif. C'est quand même les mêmes problématiques qui sont toujours les miennes, mais c'est plus les mêmes armes pour en parler.
Alors, vous avez vécu énormément de choses ces dernières années, le grand succès du premier disque. C'était indispensable pour vous de faire évoluer votre double, de ne pas vous répéter également, j'imagine?
J'adore les grands gestes ou les Madonna qui se réinventent aussi et qui en même temps restent aussi toujours le même personnage. Donc c'était un grand plaisir en fait de travailler ce deuxième album pour ça, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le premier et j'ai reçu énormément d'amour aussi et j'ai été très regardée et comprise aussi. Donc j'avais la position incroyable de me dire bon bah qu'est-ce que je fais maintenant de tout ça? Est-ce que je tords? Est-ce que je change? Est-ce que je mute? Et du coup ça donne beaucoup de force aussi pour rester audacieux, je crois.
Donc ce changement, il s'est imposé à vous de manière plus douce que radicale.
C'était pas vraiment une rupture, ça a été assez logique. En étant sur les scènes avec mon premier album, je commençais déjà à savoir de quoi allait être fait le deuxième album aussi, parce que bon, avec tout ce qui s'est passé sur le premier, et en étant sur scène, je suis devenue une femme athlète, je suis devenue une femme patronne, je suis devenue une femme puissante aussi, un peu quand même, et qu'il y a eu des problématiques qui sont tout de suite revenues dans mon visage, qui m'ont tout de suite intéressée. Je me suis dit, c'est drôle parce que le premier album, je cherchais à tordre l'idée d'une jeune fille, que j'avais pas l'impression d'être, et le deuxième album, il va falloir que je devienne une femme puissante, ce qui est une autre façon de tordre l'idée d'une femme aussi. Donc c'était intéressant.
Qui est Chris? Vous allez avoir 30 ans le 1er juin.
Tout à fait.
Est-ce que Chris, elle est différente de Christine and the Queens et en quoi?
Il y a une mutation légère, oui. Elle est plus offerte. C'est marrant parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi la notion de quand le prénom diminue, ça devient un surnom. La veste, elle tombe. Bon, je suis plus en costume, mais je suis quand même plus offerte dans mon corps. Je suis plus en t-shirt, tissu léger. J'ai besoin d'aller encore plus vite. L'adresse, elle est différente aussi. Je trouve que dans l'écriture, j'ai quelque chose d'un peu plus direct, un peu plus agressif et d'audacieux aussi. Je pense qu'il y a aussi plus d'humour, qu'il n'y avait pas forcément, en tout cas dans l'album de Chaleur Humaine, mais qu'il y avait sur scène, en fait. Les gens qui me connaissent sur scène savent que je fais plus de blagues et que je suis un peu plus rugueuse, en fait, que mon premier album, qui est aussi très mélancolique. Avec ce qui s'est passé, j'aurais pu avoir envie de me cacher ou de me protéger avec plein de noms, plein de références et plein de coquetterie. Et j'avais, en fait, paradoxalement, plutôt l'envie de me mettre encore plus à nu, si ça fait sens.
Vous dites souvent que vous êtes devenue quand vous avez inventé Christine. Est-ce qu'avec Chris, vous allez être?
Oh, c'est pas mal. Ouais, ben en fait on devient pour essayer d'être aussi, hein. C'est toujours la même problématique aussi. Je crois que de toute façon j'ai commencé une exploration de l'identité qui ne finira peut-être jamais aussi, parce qu'en fait en soi c'est quand même une grande question, l'identité, qui répond à des problématiques politiques presque, enfin qu'est-ce que ça veut dire d'être une jeune femme queer en France, enfin. Donc le personnel et l'universel, ça entre en résonance sur ces questions d'identité. Je pense que je m'arrêterai aussi peut-être jamais de devenir. Je crois que c'est ça aussi qui est assez beau, c'est que barrer ce nom-là, c'est pour mon deuxième album, et peut-être que le troisième chapitre, ce sera une autre façon de me dire, et en fait, il y aura autant de façons de me dire que de façons de ressentir. Donc moi, je me vis un peu comme un miroir brisé aussi, j'ai l'impression que j'ai pas trop de cohérence, mais j'en fais un jeu.
Cette mutation s'est faite aussi avec le mouvement MeToo, avec l'affaire Weinstein. Est-ce que tout ça a influé votre réflexion et votre musique?
J'ai quand même commencé à écrire l'album en vrai il y a un an et demi, quoi. Et la grande déferlante MeToo, qui est en fait une déferlante de formulation, mais en fait, les femmes, elles ont rien découvert avec ce mouvement. On ne fait que formuler des choses qui sont ressenties, et c'est souvent beaucoup d'interlocuteurs qui découvrent la violence du patriarcat, quoi. Mais c'est arrivé au moment où je bouclais, moi, l'album, donc je me suis dit, c'est marrant, encore une fois, parce que autant Chaleur Humaine était arrivé au moment où on votait le mariage gay, et j'avais l'impression que mon album, il était rentré dans cette problématique, alors qu'en fait, c'est des problématiques qui sont les mêmes depuis que je suis jeune. Autant là, c'est vrai que ça va peut-être encore rencontrer, je fais pas exprès, je sais pas, c'est peut-être aussi l'air du temps, mais c'est un album qui parle effectivement du désir féminin et de ce que c'est d'être un corps de femme désirant, mais c'est-à-dire d'un désir actif, parce que le mouvement MeToo, c'est que le début d'une grande conversation qu'il va falloir avoir et qui va libérer tout le monde en vérité, parce que si on libère libère les femmes de la violence masculine classique, on libère les hommes aussi de cette violence-là. C'est-à-dire qu'elle s'exerce à tous les niveaux. Et c'est la suite de la conversation qui va être passionnante. Et d'une certaine façon, mon deuxième album, il parle déjà de l'après ça. C'est-à-dire que comment est-ce que tu subvertis cette violence ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une jeune femme ? On est déjà dans des problématiques de remise en question de ce système-là, quoi, qui est étouffant en fait.
Vous dévoilez aujourd'hui votre nouvelle chanson, formidable titre, qui s'intitule « Dame, dis-moi ». Est-ce que tout simplement, vous pouvez nous présenter cette chanson ?
Mais en fait, la chanson elle-même est une présentation. C'est-à-dire que ce choix n'est pas innocent pour un premier titre envoyé, c'est que je trouve que ça pose les bases du personnage de Chris. Le son est clairement inspiré par le G-Funk. Ça a été une grosse inspiration pour une des grosses inspirations pour le son du deuxième album, qui est plus de testostérone, plus de sueur, plus de rythme, mais qu'on reste dans le minimalisme. Donc je suis allée chercher un acteur historique du G-Funk pour qu'il soit avec moi sur ce titre, qui s'appelle Dame Funk. Je suis très contente qu'il dise oui, parce que je suis une grande fan de son travail. Et c'est un titre qui parle du désir frustré. Je vais aussi chercher l'ego trip un peu dans le rap, une façon de parler de soi avec des termes un peu outrés, mais je tords ça pour le rentrer dans mon univers. Mais le refrain est assez explicite quand même, c'est-à-dire que faire de l'énergie que je perds quand je te veux. On est quand même dans la problématique d'une héroïne qui veut en découdre aussi, et qui veut toucher, et qui veut vivre une histoire d'amour, et on lui refuse cette histoire, et du coup, au lieu de juste s'énerver, elle décide de devenir l'amuseur public.
Donc Dame Funk, grand producteur californien qui vient apporter cette couleur, voilà, du gangsta funk au titre. Pourquoi cette envie, comment vous avez découvert cette couleur musicale ?
Alors, je précise qu'il prod pas le titre, hein, parce que j'ai... il est en feat. Moi, j'ai produit et il a écouté, il a posé au dernier moment le solo de guitare, mais oui, en tout cas, moi, il a influencé ma production parce que, en fait, moi, c'est pas une nouvelle, mais je suis quand même fan de rap américain. Je suis une fan de Kendrick et tout ça, et de Snoop Dogg. Et par Snoop Dogg, je suis tombée sur un album qui est incroyable, qui s'appelle Seven Days of Funk, qui est un album commun qu'il a fait Snoop Dogg avec Dame Funk. Et c'est de la production incroyable. C'est pas du tout du G-Funk commercial très lisse. C'est très inspirant parce qu'il y a presque rien, mais ça sonne très fort. Et c'est vrai que le son à l'américaine, c'est-à-dire ce son qui sait prendre beaucoup de place et être très chaud, ça faisait partie de mes références aussi de production. Et c'est marrant parce que Dame Funk, quand il a écouté le titre, il a dit c'est marrant parce qu'on dirait du James Funk, mais en même temps on dirait que t'es complètement folle. J'étais là, oui, c'est un peu ça aussi, oui. C'est un peu ça.
Cette couleur, elle est juste sur ce titre ou elle sera aussi dans d'autres morceaux de l'album ?
Le G-Funk fait partie de références de son, donc il y aura d'autres chansons un peu G-Funk. Il n'y aura pas que ça. Même si c'est un album qui est plus violent dans les sons, il y a d'autres références. J'ai été très influencée aussi par... Alors, c'est pas une nouvelle que j'adore Michael, mais Michael Jackson, période Dangerous, la période un peu 90s, où il découvrait... C'était les débuts du sampler, donc on samplait tout et n'importe quoi. Il y avait du son un peu cartoon des fois, il y avait des crashs de voitures qui font des rythmiques. J'ai été aussi très influencée par Eminem, en vrai. Surtout son personnage du Slim Shady, qui est le petit amuseur public, mais qui est en vrai le caïd le plus dur du monde, mais qui est aussi la figure du bouffon du roi, quoi, un personnage un peu intéressant, et qui a un côté très cartoon, très drôle et très noir en même temps. Et puis dans les 90s, il y avait aussi Janet Jackson, pas mal de Janet Jackson dans la production. Ouais.
Alors vous dites que cette chanson raconte l'exaspération qui était la mienne. De quelle exaspération parlez-vous ?
Ah là là, j'ai un peu toujours les mêmes exaspérations, moi. Mais je fais de nouveaux sens dessus. Quand je disais que j'étais devenue à un moment une femme puissante et que c'est devenu un problème, c'est que c'en était vraiment un et que ça m'a vraiment un peu énervée d'ailleurs. Je comprenais pas. J'avais l'impression d'être devenue un autre genre de monstre. C'est-à-dire qu'on est très facilement un monstre dans une société très normée, mais la figure de la femme puissante fait particulièrement peur. On devient un espèce de concept abstrait. C'est-à-dire que autant quand une rockstar masculine existe, ça pose pas vraiment de problème, mais tu transposes toutes les problématiques de la rockstar masculine sur une femme, c'est plus compliqué. C'est compliqué d'être puissante, affamée, sans être tout de suite un peu démonisé. C'est compliqué d'être une patronne, en fait. Il y a tout de suite des sous-textes très négatifs qui y sont associés. Et la seule figure un peu féminine, ambivalente, qui m'a fait du bien dans cette période où j'étais un peu énervée, c'était Madonna dans les années 90. Parce que, pour moi, c'est la seule femme macho qui a vraiment existé dans la pop, en superposant des trucs très contradictoires sur son propre corps. Enfin, c'est-à-dire que la Madonna, avec des seins coniques, qui est quand même dans un truc très très macho aussi, de demander, d'avoir faim, d'asservir, enfin d'être vraiment dominante, quoi, c'est très troublant et ça arrive rarement. Et forcément, comme je suis très interrogée par toutes ces problématiques de genre et d'identité, de devenir une femme puissante, ça m'a tout de suite intéressée parce que j'étais devenue une menace, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah quitte à en être vraiment une, autant être un petit caïd pour de vrai.
Christine est née à Londres, elle a rencontré à Londres ses Queens. Ouais. Chris, c'est Los Angeles, et l'album, c'est à Los Angeles qu'il est né.
C'est un album Paris-Los Angeles, quand même. Je suis allée chercher à Los Angeles du son, mais aussi des musiciens de studio un peu à l'ancienne, qui ont fait des albums de Chaka Khan quand c'était produit par Prince, ou de Annie Lennox, donc des vieux musiciens de studio, quoi. Je suis allée allée les chercher parce que je voulais qu'ils m'apportent leur perspective et leur expérience, et puis j'avais envie de me tester aussi, je crois. Parce que comme je produis l'album, j'ai voulu me mettre aussi un peu en danger. Et en même temps, beaucoup de l'album, je l'ai écrit et je l'ai pré-produit à Paris. Et je crois que j'ai très envie d'assumer ce côté entre deux. C'est-à-dire que je suis pas devenue américaine du tout. Je me sens très française à Los Angeles, et parfois je peux me sentir un peu ricaine. Et j'aime bien cette hybridité-là, parce que en fait, elle faisait déjà partie aussi de l'ADN de Chaleur Humaine, quoi, qui avait des références anglo-saxonnes, même en production. Donc ça m'intéresse assez de pas être confortable nulle part, mais d'être partout.
Il va parler de quoi, ce nouvel album? Dans Chaleur Humaine, votre premier disque, vous questionniez beaucoup la question du genre, on l'évoquait tout à l'heure, ça sera encore une thématique du disque?
Mes disques sont une résonance immédiate de quelque chose de très intime, donc oui, le genre continue d'être une question, mais je pense que j'attaque cette problématique avec un peu plus de joie, c'est-à-dire que je décide aussi d'assumer le désordre. Et ça va avec l'idée de barrer mon nom de scène et de me montrer un peu plus offerte. C'est-à-dire que maintenant, je décide aussi de volontairement brouiller les pistes et de prendre plaisir vraiment à le faire. Et comme sur mon affiche de concert, j'ai les cheveux très courts et on voit mes seins beaucoup plus. C'est-à-dire que ça fait cohabiter deux informations que certaines personnes pensent contradictoires. Ça parle de ça, ça parle aussi beaucoup de désir. Autant Chaleur Humaine, c'était un peu un album de chambre d'adolescent, autant celui-là, c'est quand même un album du dehors, quoi. Parce que j'ai vécu des choses, des histoires. Je regarde pas que moi aussi, je regarde un peu autour de moi. Il y a une chanson en particulier qui va sortir en même temps que l'album, qui est une chanson qui regarde aussi le monde. C'est un album de quelqu'un qui est ancré dans son temps aussi et qui regarde les informations et qui voit ce qui se passe.
Chaleur Humaine, 4 victoires de la musique, 1 300 000 exemplaires vendus dans le monde, ça donne le tournis. Ce succès, cette folie, elle a été porteuse ou elle a été aussi parfois un stress, une anxiété avant de se lancer dans la création de ce deuxième disque?
Alors, ça l'a pas du tout été pour écrire mon deuxième album, c'est bizarre. C'est bizarre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient si j'étais stressée. Or, moi, j'avais surtout très hâte de m'y remettre et d'écrire. Pour moi, écrire, c'est moi contre moi. C'est-à-dire que tout ce qui peut se passer ne compte plus, quoi. Et ce qui compte, c'est l'exigence qui est la mienne et qui est déjà un peu dévorante, en vrai. Enfin, comment dire, que la pression et l'exigence, elle est tout le temps là, et qu'il y ait des prix ou pas, elle serait là. En revanche, ce qui est beau au-delà de tout ce qui peut se passer en termes de prix, c'est que d'avoir été très écoutée sur le premier album et très accueillie, ça m'a donné beaucoup de force, en vrai, pour être encore plus audacieuse.
Nouvelle tournée, à partir du 11 octobre, vous allez chanter au Luxembourg, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Allemagne, 7 dates en France. À quoi va ressembler ce tour de chant? Quelle va en être l'imagerie et celle de Chris également? Est-ce qu'elle va évoluer par rapport à celle de Christine?
De la même façon que le son se muscle, je pense qu'on projette un peu quelque chose en scène de plus musclé. Il va y avoir une évolution, donc toujours de la danse, mais travailler encore plus pour qu'elle colle au son. Et comme le son va être plus suintant et plein de sueur, on va beaucoup transpirer. Il y a une nouvelle équipe de danseurs avec moi, des femmes et des hommes, avec qui je suis en train d'écrire en ce moment le spectacle, et on écrit tous ensemble. C'est une écriture collective, donc il y a un truc très joyeux. J'ai un nouveau groupe aussi, un vrai backing band, batteur, bassiste, guitariste, clavier, donc c'est un show très musical aussi. Et le visuel fait partie de mes obsessions. L'écriture de la chanson, elle s'accompagne d'une grande mise en scène visuelle de tout ça. Et le petit personnage de Chris en canaille, il a tout un univers qui l'accompagne. Et il y a des inspirations phares, il y a Peter Pan et les enfants perdus. On travaille aussi encore la figure de l'outsider, parce que je me sentirais peut-être jamais in, je me sentirais plutôt out tout le temps, mais on la travaille un peu différemment. Et même des grandes salles, par exemple, parce que je fais l'Accor Hotel Arena, alors ça, je dois dire que je suis un peu satisfaite, mais la grandeur de la salle ne va pas me faire travailler un show grandiloquent, ça va être un truc près de l'os, très à taille humaine. Ça m'intéresse beaucoup que tout repose sur la performance, je vais pas me cacher du tout.
Il y aura 2 albums, un en anglais, un en français?
Ouais, toutes les chansons sont écrites en français et en anglais. Donc il y a la version complètement française et complètement anglaise de chaque chanson. Ceux qui veulent pourront comparer les interprétations et les traductions. Mais oui, j'ai tout fait en double. C'était assez intéressant à travailler en écriture en même temps. Parce que je m'appuyais souvent d'ailleurs de la version française pour en arriver à l'anglaise. C'était assez joyeux en vrai, comme contrainte. C'était pas mal.
On aura les 2 albums en France ou seulement le français?
Je donnerai accès aux 2, forcément. Ouais. Si vraiment vous voulez vous faire une soirée Christine, Chris, vous faites pouf toute la version anglaise et toute la version française, mais c'est que vous êtes très courageux, donc félicitations.
Merci Christine and the Queens alias Chris. Votre album a déjà un nom et une date de sortie, c'est encore secret?
Il a un nom et une date de sortie, mais que seul moi sais. Je peux juste dire que ce sera à la rentrée. Tout le reste des détails, je le garde pour moi pour l'instant, parce que quand même, comment on dit en anglais, je tease, je donne, mais pas trop pour l'instant.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci.